Jérôme Bobin,
oui.
Vous êtes directeur de Humanité et Exclusion.
Non. Inclusion, bien
inclusion,
sûr.
Inclusion, oui, c'est ça. Ça prenait un I. Canada. Mm-hmm. On parle de mines antipersonnelles. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt ce mois-ci avec Hélène parce que, bon, il y avait une journée internationale qui parlait des mines antipersonnelles et j'avoue que j'avais encore des questions là-dessus. À savoir, d'abord, les pays qui posent les mines, est-ce qu'ils ont par la suite des obligations? Est-ce qu'ils doivent aider financièrement? Est-ce qu'ils sont tenus de réparer les dégâts?
Alors, c'est pas directement lié. C'est pas parce que vous posez des mines antipersonnelles que vous devez les supprimer, les
ben
enlever.
Moi, je trouve que c'est une bonne raison.
Mais en fait, ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça n'engendre pas une obligation de poser des mines pour avoir une obligation de régler le problème. C'est ça que je veux dire.
Ouais.
Ça, en effet, tous ceux qui signent le traité d'Ottawa, parce qu'on est en train de parler d'un sujet qui est réglementé à l'échelle internationale par le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. Donc là, à peu près 160, plus de 160 pays ont signé ce traité. Ils ont tous l'obligation de faire quelque chose contre les mines antipersonnelles, ouais. Qu'ils en aient posé ou qu'ils n'en aient pas posé, bien évidemment.
Mais si je n'ai pas signé et qu'on découvre que les mines sont installées lors d'un conflit particulier par mes hommes ou mes femmes, je ne suis pas tenu, on ne m'envoie pas la facture.
Pas directement, mais l'opinion publique mondiale sera quand même assez, compliquée avec cet État. Parce qu'imaginez qu'un des grands États qui a signé ce traité se retrouve pris les mains dans le sac, en fait, on est en train de dire ça. Ça passerait pas au niveau de l'opinion mondiale.
Ben oui et non. Là. Je dirais pour avoir marché sur le plateau du Golan, les Syriens, semble-t-il, ont mis pas mal de mines dans ce coin-là. Et on parle pas de la Syrie comme étant un pays qui a mis des mines. On parle de la Syrie comme étant Bachar al-Assad.
Mais la Syrie, par exemple, n'a pas rejoint le traité.
Ah ben,
la Syrie fait partie de la trentaine de pays qui n'a pas rejoint le traité et qui n'est pas soumis à ses obligations. Ça ne les excuse pas d'avoir posé des mines et de continuer à en poser.
Bien sûr, justement, est-ce que des inspecteurs qui regardent si ma signature est, disons, si je fais ce que j'ai signé?
Tout à fait. Oui, il y a différents mécanismes de contrôle, en fait. Déjà, avant d'envoyer des inspecteurs sur le terrain, il y a une rencontre annuelle qui a lieu forcément tous les ans, soit à New York, soit à Genève, où tous les États qui ont signé, y compris ceux qui n'ont pas signé, se rencontrent pour voir l'état d'avancement. Après, il y a une réunion tous les 5 ans pour prendre des engagements concrets sur le déminage. Et puis après, les ONG comme HI, comme d'autres ONG, envoient sur le terrain aussi des personnes qui peuvent constater quel type de mines ont été utilisées, si elles sont de quelle nationalité, et faire des rapports après qu'ils deviennent publics. Amnesty International en fait aussi, Human Rights Watch, plein d'organisations font des rapports sur ce qu'ils voient sur le terrain.
Est-ce qu'on voit vraiment une amélioration ou c'est difficile d'évaluer?
Dans l'usage des mines, oui, il y a une amélioration. Dans le nombre de victimes, non. Depuis 3-4 ans, le nombre de victimes a réaugmenté. On avait atteint une sorte de seuil à 3000 victimes par an quand même. Là, depuis 3-4 ans, on est remonté au-dessus de 7000. Et le problème, un des problèmes, s'il y en avait qu'un, ça serait simple, c'est qu'en fait, on a de plus en plus devant nous des mines artisanales. C'est-à-dire que ce n'est pas des mines qui sortent d'usines, c'est des mines que les pouvoirs en présence ont fabriquées avec ce qu'ils avaient sous la main.
Ouais. Est-ce que c'est coûteux, une mine antipersonnelle?
Non, ça coûte $1.
Donc des factions, ce n'est pas nécessairement des gros gouvernements, ça peut être juste des factions qui vont paver un territoire quelconque de mines. Presque tout le monde peut mettre la main là-dessus. Là.
Oui, moi je suis allé en Colombie encore il y a quelques temps, et là on voit des, je crois que je l'avais dit d'ailleurs à cette antenne, on voit des bouteilles de soda qui ont été transformées en mines antipersonnelles.
Ah ouais.
Avec donc du plastique, une petite seringue avec un petit bout de métal qui déclenchera l'explosion dans l'explosif. Et puis ça fait office de mine antipersonnelle. Donc ça coûte rien à fabriquer, ça coûte énormément d'argent à chercher et à faire exploser. Et c'est bien le problème, on a un déséquilibre là entre le coût que représente la pose d'une mine et puis le coût que représente le déminage et l'assistance des victimes. Imaginez après, quand on est devenu amputé à cause d'une mine, que cette assistance va durer toute la vie.
Est-ce que l'équipement pour déminer, arrive à suivre les nombreux modèles de mines? Bon, on voit toujours là, la fameuse soucoupe.
Le détecteur.
Oui, mais j'imagine que selon le modèle, doit y avoir différents types de détecteurs?
Oui, alors moins il y a de métal, plus le détecteur est inefficace parce qu'il découvrira moins le métal. Donc il faut trouver soit des détecteurs qui sont plus fins dans l'analyse, soit utiliser aussi des animaux, le chien qui va renifler en fait l'odeur de l'explosif, les rats aussi, les rats renifleurs. Nous, on essaye en ce moment au Tchad, on essaie une nouvelle technologie aussi de drones, donc des drones qui survolent les territoires et qui identifient en scannant le territoire, qui identifient les endroits où il y a quelque chose de problématique, de métallique, et après les démineurs vont sur le terrain directement sur ces endroits-là.
Est-ce qu'un pays est responsable de factions à l'intérieur de son pays qui auraient produit des mines? Dans un pays signataire, je présume qu'il a comme règle de ne pas installer des mines, mais est-il responsable de groupuscules à l'intérieur qui pourraient le faire?
Ça, la question se pose. Est-ce que les grandes puissances sont liées à des groupes armés dans les différents conflits en cours actuellement? On le sait bien, il y a forcément des intérêts qui vont servir les uns ou les autres.
Donc, on peut dire que ce n'est pas nous.
Mais par contre, voilà, ce n'est pas nous.
Ouais.
C'est pas
donc,
nous,
on
c'est
peut
les
être
autres.
Signataire, mais être hypocrite.
Ah ben ça, ça n'empêche... La signature d'un traité international n'a jamais empêché d'être hypocrite.
Ouais.
C'est la diplomatie, ça.
Donc, pourquoi vous y croyez encore, Jérôme?
Mais parce qu'on a vu sur le terrain depuis 20 ans que le traité existe, on a vu, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins de mines utilisées, des territoires entiers libérés, libérés pour éviter des nouveaux accidents, libérés pour construire des villes, des routes,
Oui, mais
pour...
vous me dites aussi qu'on est rendu à 5 000 victimes alors qu'on était à 3 000 il y a 3 ou 4 ans.
Oui, à cause justement des conflits en cours en Syrie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, tous les groupes armés qui continuent d'utiliser ce type d'armement. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrête les
Ouais.
efforts? Je pense pas.
Le monde serait meilleur s'il y avait moins de sceptiques comme moi, j'imagine, et plus de gens actifs comme vous.
Il faut tout pour faire un monde.
Ouais. Ben merci d'être là. Merci de le faire, vous et les autres. Jérôme Bobin, donc, qui est directeur de Humanité et Inclusion.